Et puis il répliquait, ne t'inquiète pas, le Seigneur est fidèle. Il nous a nourris hier, il nous nourrira aujourd'hui. Et ça prenait quelques 300 dollars par jour pour nourrir tous les étudiants. Sans aucune promesse, sans vraiment des revenus réguliers. Dieu pourvoyait jour après jour aux besoins de tous ces étudiants qui étaient là. C'était vraiment, je peux dire, c'était un homme de Dieu qui a influencé les vies de ses étudiants. Plus tard, il était malade. Il ne venait pas régulièrement à la salle à manger ou donner des cours. Je vous assure, c'était un vrai père. Je garde de lui un magnifique souvenir. Sa femme, par exemple, était complètement différente, les contrastes. Lui était suisse, un juif converti. Elle était allemande. Elle venait de Berlin. Et elle avait un doctorat gagné en la philosophie de l'Université de Berlin. Elle avait un coco. Je vous assure, c'était un orateur par excellence, même si c'était une femme, ça ne dérangeait pas. Il y avait des grands auditoires tout partout en Suisse, en Allemagne, qui allaient l'écouter. Et pendant des années, elle donnait des grands discours. Et à un moment donné, elle a réalisé que tous ces discours-là, que ce n'était même pas une souris qui s'est convertie à cause de ça, qu'elle avait besoin de la puissance de Dieu. Ben, je vous dis comme elle l'a dit. Ah, je viens de réaliser qu'il n'y a pas beaucoup de souris qui se convertissent. Mais c'est une expression. Ouais. Mais elle était vraiment du souche allemand et c'était, en tout cas, c'était. Elle avait son titre, Frau Dr. Wasserzug. Tout le monde l'appelait comme ça et pas autrement. Ouais. Bon. Maintenant, ce n'était pas juste la direction qui était à l'école. Il y avait des camarades et il y avait des profs. Alors, il y a trois hommes qui, en quelque sorte, m'ont marqué pendant que j'étais en Suisse. Un de ces hommes s'appelait Konrad, avec un K. Un SS allemand, durant la guerre. Alors, je ne l'ai pas choisi. C'est l'école qui l'a choisi pour être mon camarade de chambre. Pas quelle idée qu'elle aura pris. Mais il était mon camarade de chambre. Et je peux vous dire que la Deuxième Guerre mondiale n'a pas fini en 1945. Elle a continué en 47, et 48, et 49. Et quelquefois, c'était vraiment grave et dangereux. Mais c'était une de ces personnes. Vous voyez que j'ai dit que le Seigneur en toi. Mais une chose, Konrad et moi, on avait souvent des conflits, des étincelles, les feux. Mais on ne s'est jamais couché sans s'agenouiller un à côté de l'autre et sans savoir demander pardon et savoir réconcilier. Et ça, là, mes frères et sœurs, on n'allait pas apprendre ça dans les livres de théologie. Ça, on apprend ça au pied du Seigneur Jésus. Et Konrad est devenu un frère et un ami intime. Pas à cause des chicanes, mais la manière que nous avons appris à régler nos différends. Il y avait un autre ami dont j'ai fait connaissance pendant que j'étais là. Son nom était Pierre. Si vous regardez dans les cantiques que les enfants chantent, ou même des cassettes qui sont vendues dans votre librairie, son nom était Pierre Van Worden, un Hollandais. Alors, il est un musicien fantastique. Dans le livre que sa tante a écrit, il nous disait quand il avait 12 ans, il était dans les scouts avec des culotte courte. Puis il allait d'une ville à l'autre, il donnait des concerts de piano. Et il était encore adolescent quand il était choisi dans la cathédrale d'Amsterdam pour être l'organiste. Puis un jour, pendant l'occupation allemande, il a joué l'hymne national hollandais. Mais pour ça, il était mis en prison. J'allais quelquefois avec lui dans une église protestante au village. Il avait un orgue avec des pipes. Il s'assit derrière cet orgue. Son visage a tourné, a pris une forme bizarre. Il était parti. C'est vrai. Puis, ses mains, ça coulait, sans papier, sans rien. Jouait des heures de temps, puis cet orgue-là, ça tout tremblait. Mais avec lui, je peux dire, les premiers amis, Conrad, le Seigneur s'est servi de Conrad de briser ma vie. Mais le Seigneur s'est servi de Pierre pour former ma vie, la communion. Avec lui, nous sommes allés dans le village. Avec lui, nous avons passé des temps ensemble de jasant de la parole de Dieu. Avec lui, j'ai passé des temps dans la prière. Il est devenu un ami. Mais à cause de d'autres raisons. Il n'était jamais mon camarade de chambre. Mais il était un vrai frère dans le Seigneur. C'est lui qui m'a consolé quand j'avais besoin. C'est lui qui m'a corrigé, mais avec beaucoup d'affection. C'est lui qui a bandé les plaies quand j'avais besoin que ce soit bandé. Il y avait un autre frère qui était là. Son nom était Hans. Ma femme a connu quelques... Je crois qu'elle a connu tous ces hommes-là. Et Hans, par exemple, c'était un Suisse. Alors, et lui était différent encore. Avec lui, j'ai appris à travailler. C'était un homme avec qui j'ai passé les vacances dans l'atelier. Et il m'a montré les métiers qu'il faisait. Rembourrage, et nous avons fait des matelas. On a fait des sommiers par des dizaines et des centaines. Et avec la précision, avec soin des Suisses, j'ai appris à travailler, mettre en pratique ce qu'on a appris, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement par les mains. Il y avait une autre personne que je voudrais mentionner, peut-être même deux, qui était à Beatenberg. Un professeur, je le vois encore, un grand, maigre. Puis, on avait des places assignées à l'école. On ne pouvait pas tout simplement s'asseoir n'importe où. Chaque semaine, on a changé des personnes à table. Il y avait toujours un professeur à la tête des tables. Alors, pendant un certain temps, j'étais juste à son côté. Mais on dirait que tout ce que je sais, je l'ai frotté en envers. Puis lui, moi aussi d'ailleurs, on s'était parlé. Un jour, nous avons eu, il y avait quelques frères dans l'école, on avait vraiment à cœur l'évangélisation. À un point, j'avais tellement un fardeau pour sortir de l'école et évangéliser, au début en venant en Suisse. Je vais faire un petit recul. J'arrive en Suisse en retard. L'école avait déjà commencé. Alors, le lendemain de mon arrivée, j'entre en classe. J'ai pensé que j'ai parlé allemand. Mais j'ai appris que mon allemand n'était pas leur allemand. Parce que moi, j'ai appris l'allemand autrichien et slovaque. Puis là, les autres, ils parlaient un allemand différent. Je ne comprenais rien. Rien. Alors, je me suis souvent posé la question, comment dans le monde j'allais pouvoir aller à l'école, m'asseoir, puis mettre mon nez dans les bouquins. Je peux vous dire, j'ai arraché pendant des semaines, des mois au début, avec un dictionnaire mot à mot pour voir les notes et pour pouvoir déchiffrer qu'est-ce que ça voulait dire. Ouais, c'était comme ça. Mais un de ces professeurs, alors, après ça, un temps est venu qu'il me semblait que j'en pouvais plus absorber. Que tout ce que j'étais capable, c'était plein jusqu'au bouchon, puis là. Alors je suis allé voir la direction et je dis, écoutez bien, on est ici, on reçoit, puis je ne suis plus capable, il faut que je sorte maintenant, que je m'en aille, que j'aille prêcher. Mais ils étaient très sages. Ils n'ont pas essayé de me retenir ou me convaincre. Ils m'ont tout simplement envoyé de prier. Ils m'ont dit, va et prie, demande au Seigneur quelle est sa volonté. J'ai décidé de rester. Mais en même temps, nous avons formé une équipe, 5 frères. Puis on partait les fins de semaine en bicycle. Puis on allait dans des villes ou des villages. C'est fantastique. Vous pouvez faire ça à Québec. Alors, nous sommes allés à Berne, la ville capitale. On était 5. Le cœur bat. Vous vous arrêtez à la place où il y a le plus du monde, au coin des rues. Et 5 ont chanté. Alors, ça faisait un attroupement. Ce n'est pas une chorale. C'est ça, un gars qui commence à chanter. On chantait. Alors, les gens qui, tout d'un coup, arrêtent, se regardent ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, on arrête de chanter. Il y a quelqu'un qui témoigne. Alors là, les gens s'en vont. Non, on commence à chanter à nouveau. Puis, tout d'un coup, les gens reviennent. Quand ils reviennent, on arrête de chanter, on prêche encore. Quand on prêche 5 minutes, les gens partent. On change, puis tout le temps. Puis alors, après un mois donné, après une demi-heure sur les coins, il n'y a plus personne. On s'en va sur un autre coin. Vous voyez, et comme ça, on va d'une place à l'autre dans la ville, tout partout, et tout ce que nous avons fait. Après ça, nous avons trouvé une meilleure idée. Nous avons loué des salles. Hein? Puis on a imprimé des invitations. On s'en allait, puis on a invité le monde. Puis on a prêché, il y avait des vraies conversions. C'était vraiment merveilleux. Alors, une fin de semaine comme ça, on avait planifié un samedi d'aller faire l'évangélisation. Mais ce professeur n'a pas tellement aimé ça. Alors, j'étais assis à son côté, puis il dit, samedi, il va pleuvoir, vous n'allez pas être capable de partir, c'est pas la peine que vous planifiez des affaires pour samedi, il va pleuvoir. Il pleuvait déjà, mais alors, je dis, oui, c'est vrai, si le Seigneur est capable d'arrêter la pluie et de nous permettre qu'on aille. Oh non, non, il ne faut pas compter là-dessus, il ne faut pas s'amuser comme ça, c'est pas, il ne faut pas tordre la parole de Dieu. Mais j'ai dit, écoutez, Élie était un homme comme nous, la parole de Dieu nous dit, il a prié, il ne pleut plus. Alors en disant cela, j'ai dit un peu trop. Quand toute la balance du repas, il n'a pas dit un mot. Mais quand le repas était fini, il m'a dit, viens t'inquiète. Alors, il m'a amené dans une chambre bien tranquille, où il n'y a personne, puis je claquais la porte en arrière, puis dit, voyez que dire ! Pointez vers la terre, ce qu'il a dit, courbe-toi ! Voyez que dire ! C'est ça que ça veut dire. Je me rappelle, je l'entends encore résonner. Mais je dis, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit ce que la parole de Dieu dit, que Dieu est capable d'arrêter la pluie et de nous donner du bon temps pour aller évangéliser. Mais il dit, boy, que dire ! Et chaque fois que j'ai dit quelque chose, la seule chose qu'il a dit, c'était, boy, que dire ! Boy, que dire ! Et boy, que dire ! Et comme je ne voulais pas me mettre à terre devant lui, il prend la porte, il claque, puis il s'en va. J'étais là tout seul, je dis, oh, oh, ah, qu'est-ce qui va arriver ? Je m'en vais dans ma chambre. Je commence à regarder mes affaires. Je dis, c'est aussi bien de prendre, de faire ma valise, parce que là, chez nous, on n'allait pas rentrer en contradiction avec la direction, avec les professeurs, et espérer de rester. Alors, je vais dans ma chambre, je me mets à genoux. Et j'ai fait cette fois-là, comme j'avais déjà fait quand j'étais nouveau chrétien. Je prends ma Bible. Je l'ouvre et je lis. Vous n'aurez pas cru. Psaume 77. Voulez-vous aller regarder